L'insécurité culturelle. C'est une nouvelle expression qui vient renforcer ce qu'on avait fini par apprivoiser sous le nom de multiculturalisme. Or, l'insécurité culturelle ne touche pas que les personnes les plus cultivées si ce terme a un sens. Elle touche tout le monde. Essayons de voir ce qu'il y a derrière ce terme. Plutôt qu'insécurité culturelle, certains intellectuels parlent du développement d'une société d'éloignement. Cela signifie que ce qui devrait faire lien dans une société se caractérise par une ignorance mutuelle. Pour caricaturer, en ville, dans toutes les villes du monde, qu'on soit dans son quartier ou sur une place publique, on ignore tout de son voisin. Le lien, si on peut dire, c'est l'ignorance. Et on ne perçoit les autres qu'à travers des stéréotypes, non par le biais de la réalité. En revanche, chacun aura dans son smartphone un certain nombre d'amis avec qui il entretient d'excellentes relations virtuelles. Car ces amis sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres. L'éloignement choisi des gens proches physiquement et la proximité affective des gens lointains n'est pas sans poser quelques problèmes. Chacun essaie de mettre en avant ses particularités, et comme elles ont une signification pour ses amis virtuels, il les affiche coûte que coûte dans son espace réel, quel que soit l'environnement où il évolue. Cela favorise les tensions, et par voie de conséquence, le regroupement appelé communautaire. Ainsi, les gens d'une même couleur, d'un même pays, d'une même ethnie, vont se regrouper dans un habitat, un quartier. Mais pas seulement eux, les tenants d'une même religion, d'une même philosophie de vie, tels les naturistes, d'une même tendance sexuelle, telles les homosexuels, vont aussi se regrouper en prenant ce critère positif commun comme point de départ à un vivre ensemble dans le but de faire société. Ainsi établis dans leur pénate, ces personnes n'éprouveront pas de la même façon ce que l'on nomme insécurité culturelle. C'est évidemment le fond de commerce d'un essayiste et polémiste comme Éric Zemmour. On exalte le vivre ensemble quand les communautés se séparent, dit-il. Phrase tirée de son livre Un suicide français paru en 2014. Mais je mettrai l'accent sur un autre phénomène pointé par Régis Debray. Il y a une bascule qui s'est faite de l'intellectuel vers l'émotif, et du projet vers l'optique, c'est-à-dire de l'émotion produite par des images. Il précise ensuite que tout savoir littéraire concernant Shakespeare ou Proust ou Simone de Beauvoir est totalement désuet. Les gens de moins de 40 ans ne lisent plus, et de ce fait ignorent tout le continent littéraire qui s'est bâti tout au long des siècles depuis l'Iliade et l'Odyssée et la Bible. Quand je dis les gens de moins de 40 ans, je parle de 80 à 90% d'entre eux, car il y a bien sûr des amateurs de littérature et même des écrivains dans cette tranche d'âge. Mais contrairement à l'après-guerre, où les femmes et les hommes qui parfois n'avaient pas le certificat d'études primaires lisaient des romans classiques, aujourd'hui, ce sont les images qui permettent de survoler ce qu'ont été les exploits, les aventures et les amours des héros du passé. Et tous les jours, de nouveaux films et de nouvelles séries sont proposés aux spectateurs qui ont besoin de se changer les idées. Toute cette population est inculte vis-à-vis de la littérature, mais possède une culture qui correspond à son époque. Ainsi, ces gens ne connaissent pas les aventures plus ou moins palpitantes de Madame Bovary, Pierre Bezoukhov, héros de Guerre et Paix de Tolstoï, de Scheherazade dans les Contes des Mille et Une Nuits, de Nana, l'héroïne de Zola, de Big Brother, le système implacable qui surveille tous les citoyens, dans 1984 de George Orwell, etc. Je clôt ici cette liste infinie. Passer de l'intellectuel vers les motifs veut dire que l'image qu'on regarde touche directement nos centres émotifs. Et lorsqu'il y a répétition, ces émotions nous incitent à construire ce qu'on appelle un stéréotype. C'est une forme caricaturale représentant une personne, une typologie, un symbole, un pays, etc., qu'on met en avant pour vérifier qu'on a raison, car toute personne a besoin d'être rassurée par ce qu'elle pense et conçoit. Prenons un exemple qui a nourri bien des spectateurs et spectatrices français. Un film de guerre entre Français et Allemands. Comme ils sont tournés par des Français, ils montrent les Français aigriards, peu disciplinés, séducteurs, débrouillards, malins, en lutte contre l'arbitraire et l'injustice. Et au bout du compte, ce sont eux qui emportent la mise. Chaque Français peut se reconnaître dans cette succession de clichés. En revanche, les Allemands sont présentés comme disciplinés, intransigeants, injustes, cruels, séduisant les femmes avec des arrière-pensées, pratiquant une gestuelle ridicule, le salut nazi. Ainsi, quand on croise un Allemand aujourd'hui, on se dit qu'il a un côté strict, intransigeant, voire ridicule. C'est un stéréotype qu'on généralise systématiquement. Et d'un Allemand croisé par hasard, on dit « tous les Allemands sont comme ceci, comme cela ». Il en va de même, bien sûr, avec les femmes, selon qu'elles sont blondes, brunes ou rousses. Le stéréotype est l'avatar naturel lié à ce qu'on voit sans vraiment être en mesure de l'interpréter. Ainsi, au XIXe siècle, Flaubert écrivait dans son dictionnaire des idées reçues « blonde, plus chaude que les brunes »,« brune, plus chaude que les blondes »,« rousse, voire blondes et brunes ». Et voilà comment un écrivain tente d'éliminer les stéréotypes. En littérature, les images que vous interprétez à partir du talent d'un auteur n'appartiennent qu'à vous. Elles imprègnent votre esprit, font surgir des émotions que vous avez le temps et le loisir d'analyser, de décortiquer. Ainsi, la lecture vous pousse vers la réflexion à travers un sentiment que nous possédons tous, l'empathie. En effet, c'est par empathie que nous pouvons comprendre ce qui affecte tel ou tel personnage, et c'est par empathie que nous pouvons comprendre dans la vie réelle ce qui a poussé telle personne à agir de telle manière. Sauf si le stéréotype prend possession de l'intellect. Créer du stéréotype pour caractériser un personnage ou une situation est le fond de commerce des médias. Il réinvente l'eau tiède pour nous doucher avec du prêt-à-penser. On est loin de l'empathie, qui, je le dis au passage, est un sentiment partagé par bien des espèces du monde animal. Je ne veux en aucun cas dire que la culture du livre est supérieure à la culture de l'image. Je ne mets aucune hiérarchie dans cette approche. La lecture n'impacte pas la même zone du cerveau qu'une succession d'images, où une image chasse l'autre. Chacun a pu vérifier les impressions différentes qu'ont laissé dans son esprit la lecture d'un livre et le visionnage d'un film tiré de ce même livre. Depuis l'Antiquité, les horreurs de la guerre et des catastrophes ont été maintes fois décrites et analysées. Je vous cite ces vers de Lucrèce, génial poète du 1er siècle avant notre ère, disparu peu avant l'avènement de César. Quand l'océan s'anime, agité par l'orage, il fait bon, sans danger, contempler du rivage les malheureux efforts des pauvres matelots luttant contre la mort, entraînés par les flots. Car bien qu'à la pitié leur destin nous invite, on jouit en secret des malheurs qu'on évite. À son époque, la télé ni le cinéma n'existaient, mais il avait bien saisi le sentiment profond qu'induit chez le spectateur tout spectacle qui sort de l'ordinaire. Notons simplement que la jouissance ne fait pas appel à l'empathie. Le stéréotype appelle la généralisation aussi sûrement que l'abus d'alcool conduit à l'ivresse. Au contraire, l'empathie prend en compte chaque personne, chaque situation, comme si nous étions en situation. Mais attention, l'empathie n'induit pas l'excuse, l'indifférence ou le pardon. On peut comprendre par quel processus est passé un assassin, mais en aucun cas accepter son passage à l'acte. Je souhaite aussi mettre l'accent sur une autre insécurité culturelle qui va toucher le troisième âge. Du fait de la numérisation et de la virtualisation des tâches de la vie ordinaire, plus aucun savoir culturel commun ne pourra être partagé avec les générations qui montent, excepté les questions matérielles. Donc, des conflits de générations en perspective, plus nombreux que par le passé, chacun restant campé sur son stéréotype, l'un vis-à-vis de la jeunesse, tous des ignorants, des scélérats qui ne veulent pas travailler, l'autre vis-à-vis de la vieillesse, tous des vieux croutons, des rats qu'ils crèvent étouffés par leur pognon. On termine ainsi par l'idée qu'une société multiculturelle vantant le vivre ensemble véhicule pléthore de stéréotypes aggravant l'ignorance et augmentant la distance entre personnes, empêchant la naissance de tout lien. La culture vise à rapprocher les gens, tous les gens. L'insécurité culturelle serait moins perceptible si ce qui faisait lien, c'était justement un partage des modes de vie fondés sur les singularités de tous. Rappelons simplement qu'il y a eu des lieux et des époques où cela s'est réalisé. Et si je devais désigner un lieu aujourd'hui, je citerais Singapour. À bientôt pour une prochaine humeur, une bonne humeur bien sûr.